Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à ouvrir une nouvelle page de votre Bible avec un texte que vous avez certainement lu et relu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, nous avons là un épisode qui est plein de signification pour notre enseignement aujourd'hui, et lorsque nous ouvrons ces pages, eh bien, c'est toujours un rappel pour les lecteurs familiers de l'Écriture sainte de la Bible. Puis peut-être pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, c'est une découverte avec une explication toute simple du texte, et ça nous donne certainement, eh bien, une nouvelle compréhension qui nous est nécessaire pour augmenter notre foi, faire en sorte que notre foi se développe. Alors, on va prendre, si vous voulez bien, donc cette référence, Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9, et puis nous lirons jusqu'à la fin de ces deux paragraphes, parce qu'il y a deux paragraphes. Alors voilà, donc, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Voilà pour notre situation dans notre Bible. Je voudrais dire tout de suite, ce texte que nous avons lu comporte quatre éléments qui nous enseignent, et nous allons les énumérer brièvement. D'abord, il y a, premièrement, l'histoire, le choix d'un disciple et son devenir au service de Dieu. Jésus lui dit deux mots, « Suis-moi ». Donc, il s'agit du choix éclairé de Jésus sur un homme qui va faire bientôt partie des 12 et qui va rentrer dans un service particulier. Ce n'est pas Matthieu qui a choisi, c'est Jésus qui choisit, à la fois de l'homme en question et de ce qu'il deviendra, de ce qu'il en sera de cet homme. Suis-moi. Le deuxième point, deuxième élément, c'est la fête, ce que nous avons trouvé dans la lecture, que l'on pourrait peut-être intituler la fête du salut et du témoignage qui va être rendu par tout simplement Matthieu. Ils se sont tous retrouvés après cet événement, une fois que Matthieu ait plié ses affaires, sa table de péage, rangé ses sous de la perception, parce qu'il y a tout un contexte derrière, et que il a dit adieu finalement, eh bien, à son emploi, nous voyons qu'ils vont tous se retrouver à table, tout simplement, avec Jésus. La maison dont il est question, c'est probablement la maison de Matthieu. Alors ça ne s'est peut-être pas passé dans la minute suivante, mais on peut s'imaginer que Matthieu va obéir à l'ordre, il suit Jésus, qu'il va se donner un temps de préparation parce qu'il a quelque chose à faire, il a quelque chose à cœur, c'est de faire un festin, de dire à Jésus, ses disciples et bien d'autres, eh bien de venir à sa table et Jésus est présent. Le troisième point, après le choix, après la fête, ce sont les préjugés qui invalident la progression spirituelle à travers une question des disciples de Jean, mais particulièrement les pharisiens, qui vont donner cette interrogation. Pourquoi Jésus mange-t-il avec des gens de mauvaise vie ? La fête est gâchée. Et puis le quatrième passage, le quatrième point que nous allons voir, c'est ce phénomène que j'appellerai, vous connaissez peut-être, de passéisme. C'est-à-dire toujours vivre dans le passé. Toujours revenir en arrière. Les temps d'hier étaient forcément meilleurs que ceux d'aujourd'hui. C'est une erreur. Et nous allons le voir. Il y a un proverbe qui dit que ceux qui sont toujours en train de répéter que les temps d'hier étaient meilleurs, la Bible nous dit que c'est pas par sagesse que les gens disent ça. C'est tout simplement rester en arrière, reculer en quelque sorte. Quatrième point, c'est le passéiste, qui est mis en opposition avec la proposition d'une vie nouvelle, d'une vie qui sera meilleure forcément que notre histoire et notre passé. Et là, nous rentrons dans cette parabole du vieil habit et des vieilles outres, du vin nouveau et de tout ce que cela peut comporter de nouveauté de vie et d'existence pour un homme. Alors, il y a matière à réflexion ce matin. Je me suis penché sur ce sujet. J'ai eu à cœur, il y a une quinzaine de jours, en ouvrant ma Bible, eh bien, de méditer ce texte. On ne l'a jamais fait ensemble. Et de me dire, eh bien, véritablement, il y a quelque chose, parce que on ne va pas à reculons. On va de l'avant. Et le Seigneur nous a dit de regarder devant nous et pas derrière nous. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on pourrait tout simplement, comment dire, coucouner. D'accord ? Non, ça vous dérange pas, non ? Dans notre petit état, nous avons une église, c'est tranquille, on n'est pas trop nombreux, les chaises sont extrêmement confortables, on pourrait presque s'endormir. Parce qu'il quand même, il nous fatigue le pasteur, quand même, à toujours parler de la Bible et de l'Évangile. Merci pour votre accueil. Mais toujours est-il que c'est pas ça, la vie chrétienne. C'est l'aller de l'avant. C'est en quelque sorte être comme le vin nouveau qui bouillonne et apporter finalement, eh bien, quelque chose autour de nous. C'est pas pour nous, Alors on va pas s'endormir. On va aller de l'avant, volontairement, d'une manière déterminée, parce que nous pourrions dire avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Et vous savez ce qui est arrivé à Bartimée? À partir du moment où il a ouvert les yeux, parce qu'il était aveugle, que Jésus l'a guéri de sa cécité, il nous est dit qu'il suivit Jésus dans le chemin, donc Jésus était devant lui, et nous suivons Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on va prendre les quatre éléments, les uns après les autres, et voir d'abord le choix. Et je vais relire à cet effet, eh bien, les versets, et reprendre. Il nous est simplement dit, en ce qui concerne le choix, retenez bien. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Chose étonnante, cet homme se leva et le suivit. Pas une question, rien du tout. Il se met tout simplement debout et il le suit. Alors, est-ce que nous pourrions parler de conversion fulgurante? Certainement. J'ai connu dans l'exercice du ministère, des gens qui se sont convertis avec qu'une seule réunion. Ils sont venus et leur vie a été transformée, changée. Ça, c'est une œuvre de l'esprit. Maintenant, nous avons connu plus fréquemment des amis qui viennent, qui reviennent, une semaine, des mois, voire même des années, et qui, quelque part, le travail se fait quand même dans leur cœur. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant de voir quelqu'un qui vient pour la première fois ou les premières fois et qui disent « Maintenant, moi, je vais me faire baptiser, je veux suivre Jésus, je veux devenir un disciple et un chrétien. » Ça se fait, et on l'a vu, hein. Maintenant, il y en a d'autres, eh bien, il y a un suivi, il y a un temps, qui n'est pas un temps perdu, hein. faut pas croire, parce que ça permet finalement d'assimiler la parole, de conforter les assises de la foi avec le temps. Alors, faut bousculer personne, de toute façon. Et je suis pas de cela. Une conversion fulgurante. Matthieu, son nom est donné dans l'évangile de Luc, il s'appelle Lévi, le nom juif, hein, profondément juif, Lévi. Et vous savez que le nom de Matthieu, ça veut dire hein, don de Dieu ou Dieu a donné. Jésus prend des risques, hein, franchement, parce que dans son équipe des 12, hein, il choisit les uns les autres, il va choisir des pêcheurs sur le lac de Tibériade, il va en choisir toutes sortes de différentes vocations. Hein. Et là, il va prendre, pour mettre au milieu des 12, excusez-moi, un gars qu'on n'aurait jamais été chercher. Ah, ça c'est sûr. Parce que il a quand même une drôle de profession, quand même, Matthieu. Enfin, dans l'imagination des gens, enfin, dans ce qui peut être dit. Et je crois qu'il porte vraiment le nom de Matthieu parce que Dieu a donné à cette équipe des 12 qui va constituer finalement, eh bien, la compagnie de Jésus, un homme. Il faut avoir une idée tout à fait particulière de ce que l'on veut faire avec cet homme-là, hein. Un homme qui est plus que douteux. Un petit peu à la manière d'un Zachée. Vous savez? Parce que il a quand même une profession particulière qui n'a rien d'indigne aujourd'hui, hein, cette profession de percepteur. Surtout, allez pas dire et parler du mien, parce qu'il serait peut-être pas très content, mais enfin bon, je pourrais toujours lui ouvrir une Bible. Mais toujours est-il que, à l'époque, les péagers, eh bien, travaillaient pour le compte de l'occupant romain, et ils passaient pour un collaborateur. Et c'était mal vu parce que ils vivaient avec l'argent des juifs pour donner aux romains. Imaginez-vous un petit peu le travail. C'était pas forcément, oui, c'était ce qu'on appelait pendant la dernière guerre mondiale, c'était un collabo. Un homme qui avait une mauvaise réputation. Et Jésus va constituer son équipe des 12 dans la disparité de toutes sortes de gens qui vont être autour de lui. Mais il y a un sens. C'est un scandale, en quelque sorte, que Jésus ait fait le choix de Matthieu. Péager, percepteur, égal, voleur. Bon, c'est un petit peu raccourci ce que je suis en train de dire, mais quand même, hein. Ah, ils n'étaient pas aimés en Israël. Les Juifs qui devenaient des percepteurs, qui devenaient des péagers, pour le compte de l'occupant, ils n'étaient certainement pas aimés. Et je voudrais quand même souligner une première chose, parce que ça nous concerne ce matin, c'est que le constat, à travers le choix de Jésus, le constat est fait que personne n'est trop éloigné ou inaccessible à la grâce et à l'amour de Dieu. Heureusement que les portes sont ouvertes. Et je veux, autant que je serai pasteur dans cette église, que les portes soient ouvertes pour accueillir tout le monde. Et pas sélectionner. Ouais. La grâce et l'amour de Dieu, eh bien, peut atteindre n'importe quel homme, quel qu'il soit. Aussi bas tombé soit-il. Quelle que soit sa vie antérieure. Quel que soit ce qu'il ait pu faire. Non. La grâce de Dieu, c'est ça. On pourrait peut-être ajouter que le passé d'un homme n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce qu'il va devenir. Quelle qu'était, tout simplement, sa vie. Et là, ce qui va faire la grande différence, et Jésus le savait à l'avance, hein, parce qu'il nous connaît, hein, de toute façon, c'est pas tant son passé, mais plutôt son obéissance immédiate. Lorsque Jésus lui dit les deux mots, « Viens, suis-moi ». Imaginez-vous que vous rencontriez quelqu'un dans la rue. Mesdames, messieurs, quelqu'un vous dit « Suis-moi ». Si c'est la police, vous n'avez peut-être pas trop le choix. Mais Si c'est un inconnu qui vous dit « suis-moi », là vous allez peut-être réfléchir à deux fois. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, parce que je le remets peut-être d'une manière assez humoristique, un peu piquante, mais c'est quand même ce qui s'est passé. C'est l'obéissance immédiate de Matthieu. Mais ça, c'est la preuve de quelque chose dans le cœur de Matthieu, quel qu'il ait été. Son passé, son histoire, c'est la preuve d'une grande foi, d'une grande confiance en Jésus qu'il ne connaît pas. Alors je ne sais pas quel flash a-t-il reçu à ce moment-là à travers ces deux mots, mais toujours est-il que c'est ce qui s'est passé. Et le texte nous dit dans un autre évangile, il laissa tout. Il laissa tout. Toute sa vie passée, c'est fini. Je voudrais aussi faire cette réflexion, c'est que Matthieu, toujours dans l'image du choix, de cet enseignement du choix, Matthieu se détache à l'instant de l'amour de l'argent. Je vous ai dit, il était tout simplement, et bien là, publicain, péager, et certainement qu'il avait fait certainement beaucoup d'argent avec son fonctionnariat, nous pourrions dire. Hein. Et il se détache à l'instant de tout le reste, de l'amour de l'argent. Il va quitter sa carrière pour s'attacher à la personne de Jésus. Et à l'inverse, Judas se détache de Jésus pour l'amour de l'argent. Voyez ? Et pourtant, Judas a été appelé exactement par Jésus pour être un disciple aussi. Les deux vont aller dans des différentes. L'un va devenir apôtre, il va devenir disciple de Jésus, et l'autre va devenir un apostat. Comme quoi, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Paul qui le dit dans l'Évangile. L'argent, oui, mais dans la mesure où ce soit pas lui qui soit le maître, mais qu'il soit notre serviteur. Ça, vous l'avez compris. Mais c'est une curieuse destinée, hein, quand même, ces deux hommes. Hein. Et pourtant, ils sont tous les deux disciples de Jésus. Matthieu, on va dire deux mots maintenant sur ce qu'il a été, sur pourquoi le Seigneur l'a appelé dans son passé un peu particulier, et de ce qu'il y a une perspective d'une vie extraordinaire pour Matthieu. Matthieu, devenir apôtre et évangéliste. C'est lui qui est, eh bien, l'auteur, il savait bien de quoi il parlait, puisque c'était son histoire, là, dans le chapitre 9, hein, naturellement. Il va devenir un écrivain. Il va devenir un homme de plume. Avant, c'était un comptable, il comptait l'argent. Il savait compter, hein, pas de problème. Hein. Mais la comptabilité, ça aussi nous impose à écrire. C'est un homme de plume, parce qu'il a écrit un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, c'est ce qu'on en appelle l'évangile selon Matthieu. Et c'est le premier évangile parmi tous les autres. Et au cœur même de ce qu'il va annoncer, cette bonne nouvelle de l'Évangile, il va annoncer Jésus-Christ, roi et messie, ou messie ou roi, comme vous voulez. Ça, c'est le cœur de son Évangile. C'est une caractéristique de l'écriture de Matthieu, messie-roi. Ça va être le plus grand parmi les quatre des Évangiles. 28 chapitres. 1071 versets, 55 citations et 437 souvenirs ou faits de l'Ancien Testament, ça vous va? C'est un évangile extraordinaire. Jésus, roi, le roi des Juifs, le Messie attendu par Israël. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Comme Marc présentera Jésus, le serviteur. Comme Luc présentera l'évangile dans le contexte de l'histoire, et comme Jean présentera son évangile, comme celui qui nous parle de l'amour de Dieu. Dieu aime les hommes, Dieu sauve les hommes. On pourrait peut-être ajouter que dans l'évangile de Matthieu, nous y trouvons un message messianique. Mais en plus du message messianique ou messianique, nous pourrions dire que c'est le message aussi prophétique. Lorsque nous voyons, par exemple, eh bien, tous ces écrits, enfin ces écrits particuliers sur ce qu'on appelle l'eschatologie en théologie, l'eschatologie, Jésus revient, et puis le sermon sur la montagne, les béatitudes, Luc l'a fait, mais je crois que le plus complet dans le sermon sur la montagne, c'est encore, eh bien, l'inspiration que Dieu a donnée à Matthieu pour écrire tout cela, le choix. Maintenant, il y a une fête pour célébrer la décision de Matthieu. Nous lisons le verset 10. Il est dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Il y a là un grand festin. Le mot, l'adjectif est donné par Luc. Ici, il y a un repas. Mais Luc dira dans le synoptique, eh bien là, que c'est un grand repas. Qu'est-ce que c'est? Boire, manger, se réjouir. C'est ça le repas. Et on sait que dans la tradition juive ancienne, et encore maintenant, et encore chez nous, et particulièrement nous les Français, la table est quelque chose d'important. Hein. Ça, c'est certain. Donc, manger, boire, se réjouir. Mais il y a un but de cette invitation marquée de Matthieu, c'est que le but n'est autre que témoigner à ses anciens amis. Eh oui, il nous est dit que Jésus se mit avec beaucoup de publicains, le beau, hein, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent sur l'invitation de Matthieu. Il devait y avoir un monde fou ce jour-là. Il a dû dépenser une grande somme d'argent, hein, parce qu'il disait adieu à une vie qui allait se terminer pour lui, enfin pas sa vie physique, mais d'une vie d'un autre genre qui allait commencer. Avec des publicains, Jésus, ses disciples, Matthieu, et avec toute cette compagnie, et quelle compagnie douteuse, hein. Je peux vous dire que pendant le repas, il a dû y en avoir des petits chants d'oiseaux, hein. Puis des petites histoires, surtout quand les gens, quelquefois, lèvent le coude, hein. Parce que c'était des bons vivants, hein. Ils aimaient faire la, comment on dit? Oui, enfin, vous mettrez ce que vous voudrez derrière, hein. Mais toujours est-il que ça devait être ça. Et Jésus n'est pas un rabat-joie. Jésus s'est trouvé dans ce milieu. Faut pas s'imaginer que Jésus était dans l'ombre du temple et qu'il restait là, comme on a bien voulu nous le décrire dans notre monde religieux. Mais non, pas du tout, hein. Jésus de marbre sur une stèle. Non, c'est pas ça. Jésus a vécu comme les autres hommes. D'ailleurs, cela nous est dit, hein. Bon, il y a des choses avec lesquelles il n'était certainement pas d'accord dans ce qu'il pouvait entendre. Ça, je veux bien le croire, hein. Ça, c'est clair. C'est un peu quelquefois les situations par obligation que nous avons, nous, de nous trouver. Par civilité, nous avons à aller dans certaines situations. Et ben voilà, c'est comme ça. Dans le monde du travail, par exemple, lorsqu'il y a des séminaires, avec des gens qui ont envie plutôt de faire la fête ou des choses comme ça. Ou peut-être dans des noces, dans toutes sortes de choses. Le chrétien n'a pas à se cacher. Il n'a pas à jouer un rôle de moralisateur. On est là parce qu'on est obligation. Si on peut faire autrement, ben peut-être. On va pas les choisir. En principe, on va pas tous les samedis soirs dans une boîte de nuit, non? Enfin, bon. Il y a des endroits de savoir si Jésus aimerait que nous soyons là. Et dans un endroit où Jésus, peut-être, ne serait certainement peut-être pas à nous encourager d'être dans d'autres endroits, c'est tout. Mais Jésus était dans une fête. Et quelle fête, avec des gens tout à fait particulières. Et il s'est même laissé essuyer les pieds avec le cheveu d'une prostituée. Scandale! Ha! Vous vous rendez compte? Jésus se laissait faire? Bon. Mais il avait fait ce rendez-vous, ce grand repas, ce festin, pour que chacun de ses amis entende ceci. Réjouissons-nous. J'ai trouvé enfin le bonheur et le sens à ma vie parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas notre histoire. Alors, je sais pas depuis votre conversion, ça fait 30 ans que vous êtes converti, vous faites pas toutes les semaines un grand festin pour dire j'ai trouvé le... Non, certainement pas, mais néanmoins, c'est ça. C'est ça ce que ça veut dire quand vous lisez le texte, que vous prenez un petit peu, vous faites l'exégèse du texte. Et que vous voyez, mais il y a tout un état d'esprit derrière. Et Jésus est pleinement représenté dans son humanité, bien que Jésus soit divin. Il est venu sur la terre, mais pour s'associer finalement, eh bien, à toute notre condition d'humaine, dans tout simplement nos joies et nos tristesses. Alors il pouvait dire à tout le monde, mais regardez, je vous présente, j'ai invité mon meilleur ami, mon nouvel ami, et cet ami, il s'appelle Jésus. Je voudrais que vous le connaissiez, que vous l'entendiez, que vous le voyiez. Parce que moi, il a fait des choses extraordinaires, il a transformé ma vie. Ouais. Matthieu va prendre cette décision sans regret, sans retour et sans retard. Sans retard, oui, ça c'est sûr, parce que dès que Jésus l'appelle, il va. Hein. Aucun problème. Nous allons voir un peu les convives, les convives maintenant, dire quelques mots sur les convives qui sont quand même peu reluisants. Il y avait des publicains, des gens de mauvaise vie, des grossiers, des artificiels, des boutentrains, enfin il pouvait y avoir. Et c'est précisément cette fréquentation de Jésus et de ses disciples dans la maison de Matthieu avec toute la troupe qui va être controversée. Et controversée par qui ? Ah, controversée par des gens qui regardent toujours avec un mauvais œil ce qui se passe chez les autres. Ceux qu'on juge indignes, ceux qu'on méprise, ceux que l'on appelle de bonne vie, c'est-à-dire le bon juif. Ah, et c'était précisément les pharisiens et les disciples, je dois le dire, de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Oui, ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Ils avaient entendu le discours sentencieux et sévère de Jean-Baptiste. Mais ils étaient restés avec Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste a dit « Suivez maintenant, il vient après moi, mais c'est lui qu'il faut suivre. » Mais ils étaient restés à l'arrêt en suivant et en ayant pour maître le grand prophète Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il faut avancer. Hein. Parce que si on n'avance pas, automatiquement on va rester dans quelque chose qui va nous priver de la vie et d'une véritable vie. Paul un jour arrive à Éphèse et il rencontre une troupe de chrétiens et il va poser la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Il va dire « On n'en a même pas entendu parler. » C'était des disciples de Jean-Baptiste. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est que Dieu leur a fait grâce à tous ces disciples de Jean-Baptiste. Il les a baptisés du Saint-Esprit et il louait et il prophétisait. Faut pas rester à faire du surplace. C'est pas possible. Alors, cette fréquentation a été jugée comme quelque chose de scandaleux. Elle a été controversée. Et ceux qui controversaient, c'est ceux qui se donnaient de dire « J'ai une bonne vie ». Un petit peu à l'image du pharisien qui rentre dans le temple. Tu sais, Seigneur, hein, tu dois être content de moi parce que je suis quand même le meilleur de tous les chrétiens. Hein. Ou de tous les juifs. Bon, on laisse ça de côté. On pouvait dire que c'était un ramassis de gens hein, dans la maison de Matthieu à ce moment-là. Des gens, si on veut peut-être qualifier amoraux, pas de morale, peut-être pour certains immoraux. C'est possible. Mais comment ce Jésus, avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, peut-il s'asseoir à leur table ? Et les gens religieux, les pharisiens voyaient ça comme une souillure pour discréditer Jésus en disant « Mais s'il en est à ce point-là, alors c'est vraiment pas le prophète qui vient de Dieu. » C'était ça. La réponse de Jésus est cinglante. Je vous la laisse. Il est dit ceci. Jésus, les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître, je reprends un peu plus loin, mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je voudrais simplement signaler que la fête a toujours été présente dans la Bible à chaque fois qu'une vie perdue, une vie fouillie, une vie de désordre a été retrouvée. Vous connaissez ce qui nous est dit dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc ? Le berger qui retrouve sa brebis qui est perdue, il a laissé les 99 de côté. Et il nous est dit à ce moment-là qu'il la ramène sur ses épaules. Il l'a retrouvée, il est rempli de joie et il va réunir tous ses amis pour faire la fête parce que la brebis qui était perdue, il l'a retrouvée. C'est l'histoire du fils prodigue, hein, si vous voulez par là. On fait la fête aussi quand le fils revient à la maison et dans toutes sortes de choses. La femme qui a perdu la drame, qui la cherche, et nous a dit qu'elle s'est réjouie avec ses amis d'avoir retrouvé l'argent qui était perdu. Et c'est comme ça. Vous savez, quand David a eu à cœur, le roi David a eu à cœur de retrouver un descendant de son ennemi, c'est-à-dire, là, de ce premier roi d'Israël qui a persécuté David pendant des années et des années, il s'appelait Méphibosheth. C'est d'histoire biblique tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a retrouvé Méphibosheth? Eh bien, il a fait un grand festin. Il lui a donné la première place au palais royal, etc., etc. Parce que justement, eh bien, dans de telles situations, ce qui est perdu et qui est retrouvé est un sujet d'une grande joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est l'état d'esprit de l'Église. Ça doit être, en tous les cas, l'état d'esprit de l'Église. C'était l'état d'esprit de Jésus. Enfin, moi, ça me suffit. Hein. L'état d'esprit de Jésus. Eh oui. Alors, c'est une moralité d'attitude, si je peux me permettre de présenter les choses comme ça. C'est pour tout chrétien, Il appartient à tout chrétien de savoir tendre la main, s'asseoir avec, s'asseoir avec, adresser la parole à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont dans le besoin, en recherche, par tous les moyens propices. Ici, c'est un festin qui implique finalement la réputation de Jésus, de ses disciples, et de casser même le témoignage aux yeux des pharisiens de Matthieu. Mais Matthieu n'a rien à faire du jugement des pharisiens, lui. Il n'a rien à faire du jugement des pharisiens. Il appartient à Jésus maintenant. Ne nous laissons pas influencer par des gens qui ne comprennent rien à rien et qui ne parlent que par ignorance et qui ne savent pas, finalement, ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Ça, c'est quelque chose de personnel. Nous le partageons dans la communion fraternelle parce qu'on se connaît les uns et les autres. On sait d'où nous venons, mais laissons-nous pas culpabiliser par des gens qui sont en train de faire une morale religieuse, etc., etc. Parce qu'ils ne connaissent pas. Faut pas leur en vouloir. Ils ne connaissent pas. Parce que s'ils lisaient la Bible, mais ils seraient chrétiens. Et quand on est chrétien, on ne juge pas. En tous les cas, si on doit juger selon la vérité. Et pas selon les apparences. Réputation. Réputation, je l'ai dit il y a un instant. Je reprends le verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est les préjugés des orgueilleux. Je l'ai appelé comme ça, vous. Préjugés des orgueilleux et les empêcheurs de tourner en rond. Il y a des gens qui sont comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'était la mentalité, je laisserai de côté les disciples de Jean. Mais je parlerai particulièrement de cette classe orgueilleuse et hautaine, suffisante, qu'étaient les pharisiens du temps de Jésus. Vous avez remarqué que le reproche n'est pas fait à Jésus directement. Hein. Il est fait à ses disciples, comme à chaque fois. Quel courage de vérité hein, pour finalement les pharisiens. Pourquoi Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Il y a un adage que nous connaissons tous, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, faut pas l'oublier. Mais là, c'était le contraire, ça allait à l'inverse. Hein. Pour nous dire tout simplement que le légalisme religieux, commandements, préceptes, etc., etc., c'est comme sur une voie de chemin de fer, il y a deux rails, il faut pas en sortir. Hein. Le légalisme religieux ne pourra jamais comprendre l'esprit de la grâce pour les sans mérite. Et là, je m'explique. Les sans mérite, c'est nous. Parce que nous avons été touchés par une parole de l'Écriture qui nous est donnée dans Éphésiens chapitre 2 par Paul, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc, sans mérite. Tout ce que nous sommes ce matin, c'est que nous, toute la grâce que Dieu nous a donnée, le bonheur que Dieu nous donne, c'est pas parce que nous le méritons. Mais c'est parce que finalement Dieu nous a fait un cadeau. C'est formidable, hein? Et on peut pas dire, ouais, je suis un bon chrétien, je suis un bon pharisien, je suis un bon pasteur, etc., etc. C'est de la folie, ça. C'est véritablement la négation complète et totale du salut par la grâce et par la foi. Naturellement. Parce que pour rentrer dans la compagnie des pharisiens, il fallait avoir des mérites. Fallait être ceci, monsieur cela, monsieur ceci, faire des prières au temple, etc. Je parle pour les juifs, hein. Faire des ablutions, donner la dîme de toutes sortes de choses. Ça, ben non, justement, on est sauvé sans rien faire, on est sauvé parce qu'on croit. Et ces hommes-là étaient des experts en critique pour quiconque faisait autrement qu'eux. Et ils voulaient normaliser finalement tout le monde à leur manière, se prenant eux-mêmes pour Dieu. Vous savez, quand une église commence à vouloir normaliser selon ce qu'elle pense ou ce que pense le pasteur, et ça va pas bien. Ça ne peut pas marcher. La seule normalisation où là nous pouvons être formatés, c'est de prendre la vie et les paroles de Jésus et de les vivre. C'est tout. Et Jésus de leur répondre aussitôt, puisqu'ils se croient justes, le verset 12. Jésus les ayant entendus dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est vrai ça, non? Oui. J'ai appelé ça l'ordonnance médico-spirituelle de Jésus. Parce que ça ne touche pas seulement le corps, mais ça touche l'âme et l'esprit. Et elle est adressée aux pharisiens. Et Jésus voulait leur dire, après avoir dit, mais... tu manges avec des gens de mauvaise vie. Ça voulait tout simplement dire à ces pharisiens, Jésus leur dit, comment vous vous sentez? Ça va? En forme? Quelle maladie avez-vous? Si vous en avez une. Est-ce que vous savez que vous êtes malade? Est-ce que vous ignorez que vous êtes malade? Moi, je vais vous donner les réponses à tout ça. Hein. C'est Jésus qui parle. Hein. Jésus va leur dire, mais votre cœur, il a une pathologie grave. Hein. C'est pas que vous avez un problème sur le muscle cardiaque, mais c'est au niveau du cœur, au niveau de votre âme, au niveau de votre conscience. Vous ne savez plus ce qui est bien, ce qui est mal. Vous ne savez pas ce qui est juste et ce qui est injuste. Vous ne savez pas ce qui est pur et est impur, parce que vous dites que ces gens sont des impurs. Mais vous, est-ce que vous ne seriez pas des impurs aussi? À critiquer et à juger tout le long de la journée. C'est un état d'esprit qui vous rend malade. Alors prétendez-vous vous ranger parmi les bien portants? Regardez comment les choses sont retournées. Jésus, il n'a pas son pareil pour renvoyer les questions et confondre les gens et leur fermer la bouche. Allez. Est-ce que vous, les pharisiens, alors vous seriez des bien portants? Maintenant, peut-il ajouter à chacun de s'examiner? Sans rien imposer, parce qu'on ne forcera jamais personne, et Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à changer s'il n'a pas envie de changer, s'il n'a pas envie de se remettre en cause, s'il n'a pas envie de s'examiner. Ça, c'est clair. Parce que le choix est devant vous, vous, les pharisiens. Vous voulez rester malade? Ou est-ce que vraiment vous voulez guérir? C'est une prise de conscience. Ce que je suis, est-ce que je veux rester dans l'état dans lequel je suis? Ou est-ce que véritablement je vais aller vers une nouvelle aventure qui va me donner de connaître autre chose que je connais aujourd'hui? Jésus nous est présenté dans la Bible comme le divin médecin. Ouais, le divin médecin, ça c'est la première vérité que nous apprenons, parce qu'il est le seul qui sait et qui peut guérir du mal de juger les autres. Parce que le problème, il est là-dessus, hein, parmi toute autre chose. La deuxième vérité qui est donnée à travers ce verset 12, c'est tout simplement, c'est de faire preuve de compassion. Alors peut-être qu'on peut discuter, compassion en latin c'est compassio, ça veut dire souffrir avec. Maintenant, ce n'est pas de l'amour béat, parce qu'on a ça aussi quelque part dans certains milieux, l'amour béat. C'est formidable, faut aimer, faut aimer, faut aimer. Non, non, il faut avoir du discernement. Il faut que nous puissions savoir finalement, eh bien, où est la justice dans cette affaire, où est la vérité. Parce que quelquefois, en voulant aimer des gens qui sont tout simplement des arnaqueurs, hein, faut bien le dire. Des gens qui vont vous attirer, oh, c'est formidable, c'est extraordinaire. Alors vous apercevez au bout d'un certain temps que ils ont vidé votre compte en banque ou des choses comme ça. Hein. Non, l'amour de Dieu est un amour de l'esprit. Il y a l'amour humain, il y a l'amour charnel, l'amour humain, vous le connaissez. Le mot amour se décline en grec en trois dimensions. L'amour éros, qui a donné ce que nous savons, l'amour charnel. L'amour philéim, qui est l'amour, amitié, estime, considération de l'autre. Et puis il y a cet amour dont nous parlons, qui n'est pas un amour béat, qui est agapé. Vous savez, comme dans nos agapés, nous sommes tous ensemble autour d'une table. Agapé, c'est l'amour qui aime selon le cœur de Dieu et qui n'attend aucun retour. C'est l'amour désintéressé. Eh oui, c'est ça, la compassion. Parce que Jésus le dira, vous avez remarqué, il dira, car je prends plaisir, voilà, exactement, je recherche le. Apprenez, allez, apprenez que c'est ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu dans chacun d'entre nous qui avons été transformés et changés. Là, les sacrifices, c'est tout ce que faisaient, finalement, religieusement, cultuellement, avec beaucoup de piété, les juifs depuis toujours. Et ce que font encore certains chrétiens, qui avec une bonne conscience, et je ne suis pas là pour les critiquer, parce que j'en faisais partie. Mais où il faut faire des sacrifices, où il faut faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. C'est le mérite, c'est pas la grâce. Ça n'empêche pas que nous devons être bons. Hein? Les sacrifices, il en faisait des sacrifices, les pharisiens, pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu, vous savez comment elle est gagnée? Si je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort pour moi, et que mes péchés sont effacés, ils sont expiés, et que maintenant je suis devenu une nouvelle créature. Tout simplement. Et puis j'en arrive au quatrième élément que nous avons étudié, Il est intéressant. Il est dit ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? C'est ce que j'ai pris un petit peu par anticipation dans l'explication de tout à l'heure. Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affluger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et la suite. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles huîtres, dans de vieilles outres, pardon. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Voilà. Il m'arrive rarement de faire des déchirures à mes vêtements. Enfin, quand il y a du raccommodage, c'est pas moi qui le fais, c'est mon épouse. Merci Seigneur. Parce que moi, je suis capable de me, en raccommodant, de mettre les deux jambes de mon pantalon ensemble, hein. Je marche. Myriam est bien pour ça. Et nous avons à travers tout cela, eh bien, ce quatrième point du passéisme à une vie pleine d'enthousiasme. Hein. Vous avez vu les images qui sont prises? Le vêtement, vieux vêtement déchiré en lambeaux, des oripeaux de misère, et puis une pièce neuve. Le vin nouveau, que l'on va mettre dans des vieilles huîtres, des vieilles. Merci de votre soutien significatif. Voilà. Alors, les outres vieilles, le vin, quand il va fermenter, il va te faire tout éclater. C'est normal. Verset 14, il est question justement des disciples de Jean qui reviennent là, ou qui viennent tout simplement pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font le témoignage, ils donnent le témoignage de cette joyeuse fête dont nous avons parlé. Fête du bonheur d'être sauvé à l'austère piété et l'existence restrictive. Les disciples de Jean, eh bien là, n'ont pas évolué en quelque sorte. Ils sont restés sur le message sentencieux de Jean-Baptiste. Et quand ils ont vu finalement, eh bien les disciples de Jésus se livrer, ils disaient, mais ils ne jeûnent pas. Parce que c'est le parallèle, hein. Manger, jeûner, vous comprenez? Les choses sont faites comme ça hein, dans la Bible, c'est très pertinent de toute façon. Hein. Et ils vont pas comprendre, ils se disent, mais ils sont en train de se goinfrer, ils sont en train de faire la fête, ils sont là, ils savent pas d'abord avec qui ils sont. Hein. Mais eux, ils vont dire, mais ils vont parler de l'austère et de l'existence l'austère et de l'existence restrictive. Le jeûne forcé et traditionnel. Oui. Ça, c'est une piété qui a été fabriquée un peu de toutes pièces. Vous allez me dire, le jeûne, ça existe. Oui, ça existe. Dans le livre de Lévitique, vous avez quelques exemples de jeûnes. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, il y en a deux. Un dans le livre des Actes des Apôtres et dans une épître. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier. Jeûner, après, ça appartient à chacun. Verset 15, Jésus donc leur répond à cela, « Les 10 amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Alors on comprend ce qui va se passer, c'est que Jésus c'est l'époux. Il est là, on se réjouit, il apporte la bonne nouvelle de l'évangile, il apporte la délivrance et la joie à ses disciples et au monde entier. Maintenant un jour il sera parti. Et on sait de quelle manière Jésus va partir, la croix. Et puis ensuite la résurrection, avec la promesse qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous voyons que, en quelque sorte, les disciples de Jean pouvaient, les pharisiens pouvaient accuser les disciples de Jésus de libertaires et de jouisseurs. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une parabole que Jésus a donnée dans l'évangile de Luc au chapitre 17, si ma mémoire est fidèle, quand il est dit, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, et Jean-Baptiste, lui, est venu, il vous a chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Vous pouvez faire n'importe quoi. Si les hommes sont pas décidés à croire et à s'ouvrir, il n'y a rien à faire. Vous connaissez cette parabole? On avait fait tout un culte sur cela il y a 3 ou 4 ans de cela, oui. Non. Non, les amis de Jésus, les disciples de Jésus, sont pas des libertaires, sont pas des jouisseurs et des fanfarons. Non. Ce sont les amis de l'époux. Et je vais vous donner l'explication. Parce qu'ils célèbrent tous les jours, par la présence du Saint-Esprit en eux, la joie de la vie, par une foi libérée de la loi. C'est pour ça que quand on vient dans un culte, par exemple, on peut venir triste, accablé par nos soucis et nos problèmes. Mais quand on rentre ici, que l'on partage la Sainte Cène, c'est un moment de joie. Et on se libère de la loi qui nous écrase et qui nous trouble et qui nous rend profondément malheureux et qui nous déprime. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de joie. L'Esprit de la joie. Et nous célébrons finalement cette vie. Parce que nous avons l'époux. Et nous, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, l'épouse. Et quand une épouse sait la présence, l'intimité, la tendresse et l'amour de son époux, alors à ce moment-là, mais ça ne peut être que la joie. C'est normal. Oui, nous avons été libérés par la foi de la loi et de ces tristesses permanentes d'obligations, de devoirs et autres contraintes. La leçon cruciale est la suivante, et je termine dessus. Je le lis. Personne ne met donc une pièce de drap neuf, et je l'ai lu tout à l'heure, je ne veux pas le relire, mais toujours est-il que vous avez compris le sens. Ce que l'on pourrait appeler ça, dans cette parabole ou dans cette petite image que Jésus prend pour enseigner, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il y a des incompatibles ou des incompatibilités. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça ne peut pas coller ensemble. Vous y mettez de la glu et vous mettez tout. Ça ne collera jamais. Il y a des raisons. Faire du neuf avec du vieux. Et conséquence de vouloir rapiécer, raccommoder, un mot que j'aime beaucoup, rabibocher, les vieilles habitudes du passé avec les impétuosités de la nouvelle vie. Tout simplement, les choses sont présentées de cette manière. Faire du neuf avec du vieux, c'est pas possible. Ouais, quelquefois dans notre vie, les hommes dans leur vie humaine, ils ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, et ils voudraient être comme des jeunes de 20 ans. Jeune premier, l'arthrose est là pour nous dire, mais tu as quand même cet âge-là. C'est vrai pour les messieurs, mais je voudrais pas oublier les dames. Et il est question des vieilles habitudes. Du passé, nos vieilles habitudes. Alors ça va pour les questions religieuses, mais ça va aussi pour toutes les questions de la vie. Hein. Parce que nous avons reçu quelque chose par l'Esprit de Dieu en connaissant Jésus, parce que Jésus est l'époux, parce qu'il est notre ami. Nous l'avons invité, nous avons invité Jésus à faire un festin dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur. Alors à ce moment-là, ça ne va pas pouvoir se marcher et fonctionner avec l'impétuosité de la nouvelle naissance. C'est pour ça que quelquefois, il y a des frères et des sœurs qui se convertissent. On en connaît, hein, ici à Saint-Nazaire, on en a connu ailleurs dans d'autres églises. Quand ils sont convertis, mais ils sont tout feu, tout flamme, ils prendraient presque feu dans l'église. Alors on les met près des stainters, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Non, mais c'est vrai. Enfin, je vous dis ça, vous allez dire que je suis pas très sérieux. Hein. Mais je préfère vous prêcher comme ça, je préfère avoir une attitude comme ça, que d'avoir... tout simplement une attitude sentencieuse, pastorale, avec le col et tout ça. Parce que c'est la vie. Parce que pour moi, c'est la vie. Et que sont ces habitudes, finalement, si on parle religieuse? C'est l'éducation religieuse que nous avons reçue, qui est en opposition avec l'expérience de la vie du Saint-Esprit que nous avons reçue maintenant. C'est également les institutions vieilles et usées, religieuses, de la loi des hommes, face à l'évangile de la foi. C'est la servitude légale, religieuse ou mosaïque pour les juifs, avec la liberté évangélique que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Moi, j'aime bien l'Ancien Testament, hein. C'est formidable. Mais moi, je vis dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi, c'est le devoir et l'obligation sans joie. Le Nouveau Testament, c'est véritablement la grâce et la paix. Par le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit à l'intérieur. Et si je fais les choses, je les fais parce que je les aime, et non plus que je suis contraint de les faire. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un fardeau. Je m'appelle Simon de Cyrène. Je ploie sous ma croix, alors que la croix, elle est faite pour me libérer. Pièce de drap neuf sur un vieil habit. Vin nouveau dans de vieilles outres. Comme j'ai une propension à aimer les proverbes, je vais vous en citer un. C'est un proverbe populaire, juif, hébreu. Il est dit l'habitude, ou la coutume, l'habitude, est d'abord légère comme une toile d'araignée. Mais elle devient bientôt aussi solide qu'un câble d'acier. Comprenez ce que ça veut dire? Nos habitudes. Et je parle de la religion. Mais je parle des habitudes aussi, également, du reste, que nous avons Parce que bon, voilà, nous sommes dans le monde avec toutes sortes de choses. Nous avons le choix entre l'immobilisme et l'impétuosité. Moi, je préfère que le vin, eh bien là, il bouge, enfin façon de parler, hein. Et on va mettre ce vin-là dans des outres neuves, parce qu'elles vont tenir le coup, hein. Moi, à l'intérieur de moi-même, si on peut comparer, mon corps, mon âme, mon cœur a été complètement changé. C'est une huître, une... C'est une outre. Bah écoutez, moi c'est l'air marin qui me donne ça. Comment voulez-vous que je sois sérieux ? Vous me faites rire. Jésus n'est pas venu apporter de nouvelles idées au système, mais présenter une nouvelle alliance qui doit remplacer l'ancienne. La loi maintenant doit être spiritualisée. Ok ? Ça c'est bien. On ne peut mélanger le royaume des cieux, le neuf, le vin nouveau, avec des habitudes, des traditions, c'est-à-dire le vin vieux et les vieilles outres, usagées de surcroît. Se convertir à Jésus-Christ, et j'en finis, fait de nous des nouvelles créatures, et Paul l'écrira en lettres de feu dans une de ses épîtres. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Les choses passées sont finies et toutes choses sont devenues nouvelles. Hors de question de greffer cette vie nouvelle sur une manière de vivre du passé ou au passé. Il faut un nouveau départ, mes frères et sœurs. Il faut un nouveau départ pour mes amis qui êtes là peut-être pour les premières fois. Un nouveau départ, une nouvelle vie, pas avec une église, pas avec un pasteur, pas avec un mouvement quel qu'il soit, mais avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Puis je termine par ce dernier petit clin d'œil. Quand on reprend un peu tout le fil de ce texte, je crois que pour Matthieu, parce que je pense à lui là, en finissant, Matthieu le péager, Matthieu qui laisse tout, Matthieu qui suit Jésus, Matthieu qui va être sous la mitraille de ses détracteurs, les pharisiens en particulier. Moi, je pense que ce message du vieux et du neuf, eh bien, a dû être un formidable encouragement pour lui. Non pas à retourner dans les sillons de la vieille religion usée du judaïsme, mais de rentrer finalement, eh bien, dans ce christianisme qui est un christianisme de joie, de paix et de bonheur et qui apporte la vie. Que Dieu nous bénisse. Et puis, excusez-moi pour tous les lapsus que j'ai pu faire. Maintenant, vous saurez ce que je veux dire. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole. Nous voulons te remercier parce qu'un simple petit texte comme ça, mais c'est une merveille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu nous montres, Seigneur, la lumière avec les ténèbres. Tu nous mets, Seigneur, en opposition, Seigneur, la vérité avec l'erreur. Et tu nous mets en opposition aussi, Seigneur, entre... En effet, Père éternel, la vie est la mort. La mort, c'est de pas bouger, c'est d'être figé, c'est d'être là, tout simplement, calcifié. Mais la vie de l'esprit, c'est une vie, Seigneur, comme celle de Matthieu, qui va devenir une vie extraordinaire. Des millions et des milliards de gens connaîtront les écrits de Matthieu, son évangile. Et à travers son évangile, ils connaîtront celui dont il a parlé, Jésus, le roi, le Seigneur, le Sauveur, le Messie, celui qui est venu, en effet, guérir les malades pour ceux qui sont véritablement, qui considèrent qu'ils sont vraiment malades, toi tu les guéris. Eh bien, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Nous ne voulons pas mélanger le vieux avec le nouveau maintenant. Nous ne voulons pas mélanger le passé avec le présent, mais qui prépare notre avenir. Je te demande de visiter chaque frère et chaque sœur. Je te demande de visiter nos chers amis qui sont là ce matin et qui entendent ta parole, afin que tu les réjouisses, afin que tu les bénisses, et que s'ils ont un choix à faire, eh bien ils choisissent Jésus et sa parole. Et nous te remercions, ils choisissent la vie en Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen.
Pour écouter... d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.